Bien, nous allons pouvoir reprendre. Donc, comme je vous l'avais expliqué la dernière séance, les bases sur lesquelles doivent s'ouvrir la négociation israélo-syrienne, et j'avais insisté aussi, je le rappelle, sur le fait que le journaliste anglais Patrick Seal transmet aussi des communications orales entre Barak et Assad. Il n'y a pas de contenu direct dans ces transmissions orales. C'est Assad et Barak disent chacun qu'ils veulent sérieusement négocier. Mais ils n'indiquent pas, évidemment, le contenu des proposition. Donc, après la réunion de Zurich, Barak évoque au téléphone auprès de Clinton la filière Lauder et lui demande de chercher auprès de Assad la validation des informations fournies par l'intermédiaire. Et Clinton convoque Lauder à la Maison-Blanche Lauder exige un entretien tête-à-tête avec Clinton, en dehors des diplomates américains, pour lui fournir, à lui seul le président des États-Unis, le contenu de l'ébauche d'un traité de paix qui ne fait pas plus de 2 pages. Et Lauder affirme que Assad a donné son accord à 99% du document. Alors quand Ross entendra ça, il dira 99%, c'est le 1% qui compte. Le document Lauder est ensuite transmis à Albright, Sandy Berger et à Ross. Et 10 points sont conclusion d'un traité de paix, retrait israélien sur la frontière de 1923, calendrier de retrait en 3 étapes, Assad proposant 18 mois, Netanyahou 30. La Syrie garantirait un accord entre Israël et le Liban comprenant la fin des activités hostiles à Israël à partir du territoire libanais. Conclusion d'arrangements de sécurité assurant à chaque partie l'impossibilité d'attaques surprises. Définition de 3 zones de déploiement des forces, le Golan étant démilitarisé. La zone suivante aurait des forces limitées et la 3e zone, allant jusqu'à proximité de Damas, serait dépourvue d'armement offensif. 7e, présence de stations d'alerte sur le Golan, confiée à une force multinationale composée d'Américains, de Français et de Syriens, Netanyahou ayant ajouté des Israéliens. 8, pleine normalisation des relations entre les 2 pays sur la base de leur législation respective. 9, la question des ressources en eau serait réglée sur la base des normes internationales. 10, la Syrie agirait pour que la paix avec Israël soit étendue à l'ensemble de la région. La première réaction de Ross est de dire que c'est trop beau pour être vrai. Il pense que Lauder est sincère, mais qu'il sous-estime les difficultés et qu'il prend parfois ses désirs pour de la réalité. Du coup, Clinton appelle directement Assad au téléphone. Le Syrien reconnaît s'être entretenu plusieurs fois avec Lauder, mais affirme ne rien savoir sur le document en 10 points et demande que les Américains lui fassent la gentillesse de lui communiquer. Ce qui est fait via l'ambassade américaine à Damas, et Assad répond que ce document ne convient pas aux Syriens. Barak refuse d'admettre et plaide pour une rencontre secrète entre émissaires des parties. On peut négocier sur la base du document Lauder et admettre certains changements. Assad refuse le principe du document, mais accepte la rencontre entre le général israélien à la retraite Uri Sagi, Ross, et un juriste syrien, Riyad Daoudi, qui a participé aux discussions israélo-syriennes de Wai. Le lieu est fixé à l'ambassade américaine à Berne, en Suisse. La réunion secrète de Berne a lieu les 26 et 27 août 1999. la position syrienne est rappelée, le retour de la négociation là où on s'était arrêté à Hawaï les années précédentes, et la Syrie est inflexible sur le retour aux lignes du 4 juin. La partie israélienne accepte le principe du retour à Céline compte tenu des besoins spécifiques d'Israël sur cette question, c'est-à-dire « je veux bien, mais » et refuse de donner un engagement écrit. Ross se charge d'en écrire un qui n'implique que les Américains et qui reprend implicitement le dépôt de Rabin. Barak, consulté, donne son accord, mais Daoudi ne veut pas d'un texte si vague. Donc on discute les documents en 10 points. Daoudi en reconnaît l'existence, mais explique que c'était une version préliminaire qui a été remplacée ensuite par une version finale comprenant le retour en ligne du 4 juin, et on s'en tient là à Berne. Les Israéliens sont maintenant sûrs que Assad veut négocier, ce qui est confirmé lors de la tournée d'Albright au Proche-Orient au début septembre. Assad accepte la tenue de conversations secrètes dans la région de Washington. Barak est enthousiaste et voit la possibilité de tout conclure en un mois. L'essentiel pour lui est que les Syriens acceptent de ne pas retourner sur les bords du lac de Tibériade et sur le Jourdain. Rencontrant Ross le 13 septembre, il définit ainsi sur la carte ce qu'il est prêt à accepter, c'est-à-dire un aménagement de la frontière de 1923, mais non un retour aux lignes du 4 juin. Donc là, sur la carte, vous commencez à voir les problèmes, puisque... Elle est lisible, la carte ? Non ? Vous avez le lac ici, et là, vous avez donc la frontière internationale, tandis que là, vous avez la carte de la ligne d'armistice de 1949, où vous voyez que les Syriens sont sur le lac. Et puis des problèmes complémentaires sur les affluents. Et enfin, ici, l'accès au Jourdain. Les entretiens secrets ont lieu dans la banlieue de Washington du 15 au 18 septembre. Les délégations ont été étoffées. Les Israéliens proposent que l'on étudie la localisation des lignes du 4 juin, mais les Syriens sortent à ce moment-là la carte de la convention d'armistice. Mais les Israéliens rejettent la carte de la commission d'armistice pour dire qu'il vaut bien discuter du 4 juin, mais à condition que ce soit le 4 juin et pas celle de 1949. Donc, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Néanmoins, Daoudi énonce qu'il est autorisé à admettre que la ligne du 4 juin se confond avec la frontière de 1923, c'est-à-dire passant à 10 mètres au bord de l'eau, la population locale syrienne conservant son droit à l'irrigation et à la pêche selon la base de l'accord de bon voisinage conclu entre les deux mandats. On passe ensuite à des entretiens séparés avec Ross, qui montre à Daoudi la carte de Barak sans mentionner naturellement l'auteur. Le Syrien marque que son gouvernement pourrait accepter une bande de 50 mètres tout en conservant les droits d'usage de l'eau, mais qu'il est impossible de céder un territoire syrien. À la rigueur, les Syriens disent « on veut bien céder du territoire palestinien, mais pas du territoire syrien. » Endek mentionne plutôt une bande de 30 à 50 mètres dans ses mémoires, mais les sources syriennes démentent l'existence d'une telle proposition qui, de toute façon, a été émise au conditionnel. Alors, vous verrez par la suite que c'est encore beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a toujours un problème quand on définit une frontière en fonction d'un cours d'eau, c'est que le cours d'eau se déplace. Et or, le fait que nous sommes en période de sécheresse et que le lac a régressé. Donc, si on prend le tracé de la frontière internationale de 1723, La frontière internationale de 23 n'est plus à 10 mètres du lac, mais à 500 mètres. Ce qui complique encore les choses. Est-ce que l'on discute en fonction de la disposition du lac en 1949 ou par rapport à la disposition actuelle du lac? Du problème supplémentaire, si le lac grossit, est-ce que la frontière se déplace? C'est des problèmes permanents dans les déterminations de frontières. Il y avait aussi un célèbre exemple du même genre qui était la ligne de partage des eaux faisant la frontière entre l'Argentine et le Chili, ce qui était génial, sauf que la ligne se déplaçait. Et donc la frontière se déplaçait, il a fallu que le Saint-Siège fasse une médiation pour arriver à régler le problème il y a quelques années. Donc, on en reste là pour l'entretien secret, puisque de toute façon, le ministérien des Affaires étrangères, Farouk El-Sharé, doit venir aux États-Unis pour l'Assemblée générale de l'ONU. Et dans l'intervalle, Laoder se manifeste, transmettant cette fois un document en 8 points, qu'il définit comme étant le document final, et il reconnaît que le document en 10 points n'était qu'un document préparatoire. Et dans le document en 8 points, les Syriens avaient raison, il était admis que la frontière serait sur les lignes du 4 juin 1967 et non pas sur la frontière de 1923. Ross soupçonne que Lauder a truqué les documents, enfin donné l'ordre inverse des documents, à la demande de Netanyahou, qui est son ami personnel, puisque Netanyahou ne voulait pas apparaître comme ayant négocié avec la Syrie sur la base des lignes du 4 juin. Donc, c'est forcé et contraint que Lauder a dû fournir le document en 8 points et non pas le premier document. C'est terrible, la diplomatie. Donc, Charest rencontre Albright et Ross à New York le 22 septembre 1999. Cette fois, Ross lui montre le document en 8 points et le Syrien reconnaît que le document est acceptable pour la Syrie. Ross essaye de faire comprendre que Barak a besoin de montrer à son opinion publique qu'il a assuré la possession israélienne du lac de Tibériade, donc Israël doit conserver une bande de territoire sur le rivage. Charest répond que les Syriens exigent la souveraineté sur les lignes du 4 juin, mais que la Syrie donnerait les assurances nécessaires en ce qui concerne les préoccupations israéliennes sur l'eau. Nous sommes à l'Assemblée générale. Le 23 septembre, Arafat fait son discours rappelant les points essentiels de son programme et appelant à la constitution d'un État palestinien avant 2000, enfin d'ici l'an 2000. Il est ensuite reçu par Clinton. Le même jour, Barak annonce publiquement sa certitude d'une prochaine reprise des négociations israélo-syriennes. Clinton reçoit ensuite Charest le 29 septembre 1999. Le ministre syrien défend les positions bien connues de son pays, mais annonce une concession majeure. Les stations d'alerte sur le Golan ne pourront pas être gérées par les Israéliens, mais des Américains, idéalement sous drapeau de l'ONU, pourraient les prendre en charge. Clinton insiste sur l'aspect du lac, et le Syrien marque que son pays pourrait envisager un accord de coopération. Clinton soulève ensuite l'idée qui avait été d'abord proposée par Sagui d'un parc touristique de la paix avec libre accès pour les Israéliens, le bord du lac. Charest se montre intéressé à condition que la souveraineté syrienne sur le territoire ne soit pas remise en cause. Les Américains transmettent le contenu à Barak. Ce dernier inverse les données, marquant que le parc devrait être sous souveraineté israélienne et maintient l'exigence d'une présence israélienne limitée dans les stations d'alerte. Mais à son retour en Syrie, Charest tombe gravement malade, alors que la santé de Hafez al-Assad se détériore, ce qui fait que les mécanismes de prise de décision à Damas sont paralysés. Sous pression de Barak, impatient de conclure, Clinton adresse le 12 octobre une lettre à Assad, marquant que les différences de position entre Israël et la Syrie ne sont pas insurmontables et qu'il est temps de passer à des discussions techniques, aux négociations politiques, mas il n'y a personne à Damas pour répondre. D'où un interlude qui est marqué le 1er octobre par l'ouverture d'une voie de passage entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Enfin, c'était prévu pour le 1er octobre, mais a été retardé par le fait de la difficulté de définir les conditions de sécurité et de liberté de circulation qui donnent l'autorisation de passer, c'est-à-dire des cartes magnétiques, et la question d'un courroie de contrôle des voyageurs par les Israéliens. Et on trouve finalement des compromis. Le passage, la demande de passage se fera au bureau palestinien, qui transmettra ensuite aux Israéliens pour un contrôle de sécurité. Les voyageurs acceptés recevront des cartes magnétiques valables pour un an dans un bureau commun israélo-palestinien. Les Palestiniens pourront utiliser leur propre véhicule. La circulation des bus se fera en convoi escorté par la police israélienne. Et l'accord est signé, comme vous le voyez, le 5 octobre 1999. Après une série de résolutions de problèmes dits techniques, la voie de passage longue de 45 km reprenant des routes déjà existantes est ouverte le 25 octobre, ce qui offre un incontestable mieux pour la population palestinienne. Beaucoup de jeunes de Gaza découvrent ainsi la Cisjordanie qui leur apparaît comme un espace de liberté par rapport à la grande prison que constitue leur territoire d'origine. En Cisjordanie, on s'inquiète du risque que constituerait l'afflux de chômeurs de Gaza, ce qui pourrait pousser à la baisse des salaires locaux, parce qu'il existe un grand différentiel de niveau de vie entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Et ça, c'est une vieille règle générale. En gros, les salaires de Gaza sont des salaires égyptiens. Et en moyenne, les salaires de la Cisjordanie sont le double de ceux de Gaza, enfin le niveau de vie en tout cas, de la Cisjordanie est le double de celui de Gaza. Alors, j'étais en balade en Cisjordanie à l'époque et les gens étaient très inquiets de voir arriver des milliers de gaziotes dans la Cisjordanie. L'unité nationale se heurte toujours à des problèmes sociaux. On libère 150 prisonniers, ce qui provoque toujours le même drame, puisque les Israéliens comprennent dans le lot un certain nombre de personnes ayant déjà purgé l'essentiel de leur peine, c'est-à-dire qu'ils sont simplement libérés 3 ou 4 mois avant la fin de peine. D'où des rejets de la liste, des discussions à ne plus finir et finalement des compromis. La libération a lieu le 15 octobre. Sans préjuger des futures frontières ni de la nature juridique de l'entité palestinienne, Barak évoque la nécessité d'une séparation entre Palestiniens et Israéliens qui pourrait la prendre la forme d'une clôture permanente entre les deux territoires, ce qui permettrait l'établissement de relations de bon voisinage. Les Palestiniens qui connaissent toutes les dépendances qu'ils ont envers Israël ne sont pas enthousiastes à cette perspective et on les comprend, et puis surtout, ça ne règle pas le problème essentiel qui est Jérusalem. Vous pouvez mettre toutes les clôtures que vous voulez, mais si Jérusalem fait partie du territoire palestinien, il ne peut pas y avoir de clôture, sinon c'est rompre l'unité de la ville sainte. Ou alors c'est considéré dès le départ que Jérusalem se trouvera en dehors de l'État palestinien, puisqu'il y aurait une clôture entre Jérusalem et l'État palestinien. En matière de colonisation, les Palestiniens parlent de la folie de la colonisation israélienne sous Barak, ce qui indigne l'intéressé qui dit que ce sont des questions à régler non en public mais lors des négociations. Il ajoute que de toute façon il s'agit des blocs de peuplement qui doivent destiner à rester israéliens. En même temps, Barak fait décider par son gouvernement le démantèlement de quelques colonies considérées comme illégales. Ce sont 42 implantations sauvages installées durant les derniers mois du gouvernement Netanyahou, avec la bénédiction de Sharon qui avait appris les colons à s'emparer des hauteurs. Elles occupent des positions stratégiques et interdisent la constitution d'un espace palestinien homogène. Après discussion avec les associations de colons, leur nombre à évacuer est réduit à 12 sur les 42 et de facto les 30 autres se trouvent légalisés. Donc les Israéliens proclament qu'ils ont rétabli la légalité, tandis que les Palestiniens voient surtout qu'on en a autorisé 30 et que de toute façon pour eux, la totalité des colonies sont illégales du point de vue du droit international, ce qui est d'ailleurs vrai. Et en même temps, Barak se fait huer par la droite radicale israélienne. Autre problème récurrent, l'affaire de Nazareth. Vous savez, l'affaire créée par l'autorisation israélienne de construire une mosquée à proximité de la basilique chrétienne, qui serait de taille réduite pour ne pas gêner les chrétiens. Les églises s'insurgent et menacent de fermer les lieux saints lors des fêtes de Noël, alors que l'on s'attend à un afflux considérable de pèlerins, puisque c'est le changement de millénaire. Et on parle aussi de l'éventuelle annulation de la visite du pape prévue pour le printemps 2000. Pour trouver une solution de sortie, le gouvernement israélien propose que la mosquée soit construite en 2001, c'est-à-dire après les fêtes du millénaire. Les islamistes rejettent l'offre. Les 21 et 22 novembre, tous les lieux saints chrétiens, y compris ceux sous la juridiction de l'autorité palestinienne, sont fermés en manifestation de protestation. Arafat tente une médiation, ce qui déplaît au gouvernement israélien, mais les islamistes concernés refusent de lui reconnaître la moindre autorité. Le Saint-Siège accuse Israël de chercher à attiser les tensions entre chrétiens et musulmans à Nazareth. À dire vrai, les églises chrétiennes montrent aussi leur incapacité à se mettre d'accord. En raison de l'afflux attendu de pèlerins, il serait souhaitable d'élargir l'accès à l'église du Saint-Sépulcre afin d'améliorer la sécurité de l'édifice. Puisque si vous connaissez le Saint-Sépulcre, il n'y a qu'une demi-porte ouverte au public. L'autre battant est fermé et muré. Or, ce que les Israéliens voudraient pour des raisons d'afflux de pèlerins, c'est de supprimer la partie du battant muré et de rétablir la totalité de l'accès au Saint-Sépulcre. Mais cela changerait toutes les répartitions de parcelles de la basilique entre les différentes églises chrétiennes et on n'arrive pas à un accord. Je saute, puisque c'est en dehors de notre programme, sur l'affaire de Nazareth. Finalement, le gouvernement israélien va l'enterrer quand ils s'apercevront que les islamistes ayant utilisé le droit israélien pour obtenir l'instauration d'une mosquée sont prêts à le faire dans les zones peuplées par des juifs et non plus par des arabes en Israël. Alors du coup, ils trouvent que c'est un précédent inquiétant et laisseront tomber l'histoire de la mosquée de Nazareth. Les autorités israéliennes prennent des mesures préventives contre ce qu'on appelle la fièvre ou le syndrome de Jérusalem, qui est les crises de millénarisme aigu que peuvent prendre certains pèlerins, chrétiens en particulier, mais aussi juifs, en temps général à Jérusalem, des accès de folie. En général, les gens communiquent directement avec Dieu. Alors, avec le changement de millénaire, on risque d'avoir un accroissement des cas, d'où des arrestations préventives et des expulsions de pèlerins chrétiens soupçonnés de vouloir communiquer directement avec le Messie, avec Dieu, avec tout ce que vous voulez, etc. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem. C'est spécifique à l'endroit. Allez savoir pourquoi. La Norvège organise les 1er de novembre 1999 un sommet Clinton-Arafat-Barak à l'occasion de la commémoration de la mort de Rabin. La Russie est aussi présente en rappel qu'elle est officiellement, depuis Madrid, coparraine du processus de paix Poutine fait ses débuts diplomatiques à cette occasion. Il est toujours au pouvoir, d'ailleurs. Ou il est revenu, je ne sais pas comment il faut dire. Il est pour l'instant seulement chef de gouvernement depuis le 9 août 1999. C'est Eltsine qui est toujours président de la Fédération de Russie. Alors, tout le monde rappelle et célèbre la mémoire de Rabin. Et on fait un feu de bons sentiments. À l'occasion, Clinton reçoit séparément Barack et Arafat avant une réunion commune. Les premiers ministres israéliens ne comprennent pas l'assistance palestinienne sur la colonisation, puisque de toute façon, les permis de construire ne seront appliqués qu'après la signature de l'accord final. Le président américain est complètement subjugué par le premier ministre israélien qui a réussi à le persuader qu'il n'y a aucun problème insolvable, même la colonisation à Jérusalem. Israël abandonnera quelques colonies et conservera le reste. Jérusalem sera commun aux deux peuples. Il y aura suffisamment de terres pour constituer un État palestinien viable. Ça, c'est dans ce qu'on appelle les Clinton Tips, donc ces documents très intéressants qui sont les enregistrements de Clinton, faits sous forme de journal, en quelque sorte. Et comme je l'ai dit, sont beaucoup plus intéressants que les mémoires Clinton. Il semble que c'est là où apparaît pour la première fois l'expression « État palestinien viable » qui deviendra un mantra jusqu'à aujourd'hui pour les négociations. Ça veut dire, si vous retraduisez, ça veut dire non, sans un retour aux lignes du 4 juin 67. Hein. Il faut retraduire la langue diplomatique, il faut avoir un décodeur. C'est la même opinion du côté de l'équipe diplomatique américaine. Oui, les Palestiniens protesteront, mais ils céderont à la fin, comme ils ont toujours cédé dans les négociations intérimaires. Ils ne comprennent pas que pour la partie palestinienne, on a pu céder dans les négociations intérimaires, puisqu'elles n'apportaient pas conséquences sur l'avenir, ce qui était marqué spécifiquement à chaque étape. En revanche, du côté palestinien, on est décidé à être ferme pour la négociation finale. On ne cédera pas. Mais ni les Israéliens ni les Américains ne comprennent le message qui est envoyé régulièrement par les Palestiniens en disant qu'ils n'auront pas la même attitude que lors des négociations intérimaires. Albright, Ross et toute l'équipe, certains avec réticence, se sont alignés complètement sur la politique de Barack, puisque c'est la volonté du président des États-Unis. Ils suivent donc le choix de privilégier l'option syrienne et de retarder les négociations avec les Palestiniens. Ainsi, ils ne reprochent pas à Barack d'avoir retardé d'avoir pas nommé pendant 2 mois un chef de délégation pour la négociation sur le statut final, puisque Barack ne veut pas pour l'instant de négociation sur le statut final, puisqu'il négocie avec la Syrie. Alors certes, dans les discussions avec les Palestiniens, Ross comprend que les Palestiniens sont décidés à être fermes, il dit dans son langage maximaliste, mais de toute façon, pour Ross, ça n'a pas d'importance, puisque, en fait, on va négocier avec la Syrie et non pas avec les Palestiniens. Donc, une fois l'aspect fait avec la Syrie, on reviendra avec des cartes renforcées et les Palestiniens seront forcés de céder. Alors, il y a des discussions aussi qui portent sur l'application ou non de la résolution 242 à la Cisjordanie, avec toujours le même mantra que personne n'avait reconnu l'annexion de la Cisjordanie par la Jordanie en 1950, ce qui est faux. De toute façon, sur le plan juridique, personne n'avait émis de réserve lors de l'entrée de la Jordanie à l'ONU en 1955. C'est un mantra israélien qui n'a aucun fondement juridique, les Israéliens répétant que seul le Pakistan et la Grande-Bretagne avaient reconnu la dite annexion, ce qui n'est pas le cas. Sur le plan juridique, la Ligue des États arabes avait reconnu l'annexion comme un dépôt donné à la Jordanie du territoire palestinien. Tout ça, je vous renvoie au tome 3 de la question de Palestine. J'ai expliqué ça ici, au même endroit, il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'on vieillit ? Il y a aussi les discussions sur le second redéploiement prévu pour le 15 novembre, qui doit comprendre 2% de la Cisjordanie en zone C, qui doivent passer en zone A, et 3% de la zone C en zone B. 3% de la Cisjordanie en zone B. La proposition israélienne concerne des territoires discontinus au nord de Ramallah, alors que l'autorité palestinienne voudrait s'étendre de façon continue vers Jérusalem. Arafat rejette la carte et Barak marque que cette transmission était par courtoisie, puisque c'est Israël qui décide. En dépit d'une réunion Barak-Arafat tenue au dernier moment, le transfert se trouve ainsi retardé. Et Denis Strauss, qui était venu discuter du règlement final, doit se concentrer sur ce contentieux. Donc, on va revenir à ce qui est considéré comme le plus important à ce moment-là. C'est la négociation israélo-syrienne, puisqu'il faut attendre la seconde quinzaine de novembre pour que Damas réponde au téléphone. Et la réponse n'est pas encourageante, puisque le message de Assad, c'est qu'avant toute négociation, Israël doit accepter les lignes du 4 juin 1967 comme frontière. Il ne voit pas l'intérêt de stations d'alerte et évoque les droits syriens sur les eaux du lac de Galilée. Barak n'est pas découragé et presse les États-Unis d'agir. Il voudrait même que Clinton se rende à Damas pour pousser à la négociation, ce qui ferait un effet de choc. Ross y est hostile, ce serait gaspiller la crédibilité du président des États-Unis et suggère que ce soit plutôt Albright qui se rende au Proche-Orient et qui demande à Assad de reprendre les négociations. Il s'ensuit une forte tension entre l'équipe américaine de négociation et Barak. Mais le 7 décembre, c'est Assad qui prend par surprise tout le monde en proposant de lui-même la reprise des négociations. Pour éviter de mentionner la question des lignes des 4 juin, on s'en tient à la formule là où s'étaient arrêtées les négociations précédentes, sans définir ce contenu. Le président syrien se montre particulièrement accommodant en acceptant d'élever le niveau de représentation de la délégation syrienne, en donnant cette fois la direction à son ministre des Affaires étrangères, Farouk El-Sharré, qui est remis de ses ennuis de santé. Enthousiaste, Ross Albright se précipite en Israël pour donner la bonne nouvelle. Du côté israélien, se pose un problème annexe. Le ministre israélien des Affaires étrangères, David Levy, est une personnalité secondaire, n'ayant pas de pouvoir réel de décision. Il ne peut être question d'envoyer un conseiller du Premier ministre, ce qui serait protocolairement insultant pour les Syriens. Il faut donc que ce soit Barak lui-même qui se déplace. C'est d'ailleurs ce que demande Damas. On comprend que Assad, qui est en mauvaise santé, se déplace difficilement. Pour satisfaire la précipitation de Barak, les Américains proposent la tenue des conversations préliminaires à Blair House, à Washington. Blair House, c'est le site où l'on reçoit les délégations étrangères en visite à Washington. Les 15 et 7 décembre. Puis, en raison des fêtes de Noël et du millénaire, la conférence elle-même ne pourrait avoir lieu qu'en janvier. Le 8 décembre, une déclaration de Bill Clinton annonce la reprise des négociations. En Israël, l'opinion publique est partagée. Comme il se doit, le Likoud accuse Barak d'avoir déjà capitulé devant les exigences syriennes. Surtout, la coalition commence à se fissurer dès qu'il s'agit de prendre une décision fondamentale. Le 13 décembre, la Knesset n'approuve la reprise des négociations que par 47 voix contre 31 et une 24 abstentions. Le parti national religieux qui représente les colons et le parti russe de Sharansky montrent une opposition résolue et menacent de quitter la coalition. Rappelle que Sharansky est un ancien refusnik soviétique et qui s'en prend, et il s'en prend violemment à Fazl al-Assad, pire que les anciens dirigeants soviétiques. Donc, c'est déjà avec un gouvernement de coalition en état de faiblesse que Barack se rend à Washington. Il est obsédé par le défaut majeur du système politique israélien, la fuite d'informations. En dehors de la question de l'armement nucléaire, où les peines de prison sont particulièrement lourdes en cas de divulgation d'informations, il est pratiquement impossible de conserver un secret d'État en Israël. Aussi bien dans l'administration qu'au gouvernement, il y aura toujours quelqu'un pour informer la presse. J'avais discuté avec des diplomates français qui me disaient que c'était prodigieux. Dans les 24 heures, on a dans la presse israélienne le contenu des discussions du gouvernement. Aussi bien donc, avec un gouvernement de coalition au projet contradictoire, il est difficile de sortir de l'immobilisme sans risquer de faire éclater la majorité. Il en résulte que Barack doit s'en tenir à un cercle très étroit de conseillers à la loyauté démontrée et qu'il n'est donc pas possible de faire préparer par des groupes d'experts des projets détaillés sortant du consensus minimum israélien, la paix plus une bonne part d'annexion. La moindre étude de ces questions redoutables serait immédiatement dans les journaux et provoquerait des affrontements politiques. Ce qu'on appellerait en France l'exercice solitaire du pouvoir se fonde ainsi sur cette contrainte, mais correspond aussi à la personnalité de Barack, convaincu de ses mérites propres et enclin à considérer les autres comme des personnes de moindre valeur. Le problème est que le langage corporel de Barack est particulièrement transparent à cet égard. C'est-à-dire qu'en gros, tous ses interlocuteurs ont l'impression d'être traités comme des imbéciles par le Premier ministre. En quelques mois de gouvernement, il s'est déjà isolé de plusieurs de ses proches politiques qui l'accusent de ne pas écouter les conseils, voire de ne pas en demander. Et au sein du Parti travailliste, on l'accuse de ne pas être un vrai socialiste, mais de vouloir utiliser le parti pour créer une nouvelle formation politique vouée à son propre service. C'est le reproche symétrique que l'on faisait à Netanyahou pour le Likoud. S'inspirant de la stratégie militaire de l'offensive, Barack compte sur une négociation intensive à huis clos et sans interruption jusqu'au résultat final. Or, il y aura plus de 2 semaines de coupure entre Blair House et la reprise des négociations. Alors qu'au début, il voulait restreindre la part à Parsi aux Américains, maintenant il compte sur eux pour obtenir des concessions supplémentaires des Arabes. Après avoir pressé le mouvement pour obtenir un règlement à l'arraché, voilà qu'il se met à retarder le moment des échéances finales. Cela ne peut que déconcerter ses interlocuteurs américains à qui il explique qu'il n'a pas le droit à l'erreur. S'il échoue une fois, il n'y aura pas de seconde chance, d'où sa prudence soudaine. Il ne veut donc traiter que des aspects formels de la négociation et refuse d'aborder le fond du problème, c'est-à-dire les lignes du 4 juin. Il n'est pas question d'un tête-à-tête avec Farouk el-Sharré, or ce sont les deux demandes pressantes de la partie syrienne. Donc c'est les Syriens qui demandent un entretien direct avec les Israéliens, les Israéliens refusent et exigent la présence américaine. La rencontre à la Maison-Blanche débute mal. Contrairement à ce qui était prévu, une seule déclaration publique de Clinton, Barack insiste pour que chacune des parties fasse une déclaration. Il pense aux journaux télévisés israéliens du soir. Clinton et Barack font une courte intervention exprimant leur confiance dans l'avenir à l'aube du nouveau millénaire, mais le ministre syrien, lui, exprime la vision des choses de son pays. Je cite « La paix pour la Syrie signifie le retour de tous les territoires occupés alors que pour Israël, la paix signifie la fin d'une peur psychologique dans laquelle les Israéliens vivent en raison de leur occupation, qui est sans doute la source de toutes leurs hostilités et la guerre. Il ajoute que c'est Israël qui porte la responsabilité de la guerre de 67, ce qui n'est pas la vérité, puisque les études contemporaines ont montré que la responsabilité était partagée entre Israël et la Syrie. Mais en tout cas, qui est contraire à la vision israélienne que la crise de 67 n'avait pas été provoquée par Israël. Il mentionne aussi qu'il existe 400 000 réfugiés syriens du Golan contre 17 000 colons israéliens. Donc ça embarrasse considérablement Barak, d'autant plus que les Israéliens comprennent que 400 000 réfugiés syriens du Golan, ça veut dire le retour de 400 000 réfugiés sur le Golan, ce qui n'est pas nécessairement la même chose. Néanmoins, la réunion de Blair House reprend l'historique complet des négociations et les Syriens posent une nouvelle fois la question: est-ce que le dépôt de Rabin est toujours valide, c'est-à-dire le retour aux lignes du 4 juin 67, et Barak s'en sort par une pirouette. On ne prend pas d'engagement, mais on ne peut pas effacer l'histoire. L'ambiance d'Abler House est plutôt bonne. Par l'intermédiaire de Ross, Charer suggère la formation d'un groupe chargé de la démarcation des frontières et accepte d'avancer la tenue des négociations intensives au 3 janvier, en dépit du fait que le Ramadan se termine le 7 janvier. De retour à la session plénière, la délégation israélienne s'oppose à la définition de la démarcation, qui suppose que la frontière soit déjà connue, et propose la délimitation, ce qui implique une discussion d'abord sur le tracé. Barak est très soucieux de ne pas apparaître faire des concessions et ne saisit pas la proposition de compromis de Charer, qui est intelligente, puisqu'il Charer dit qu'il existe des cartes de la frontière de 1923 et des cartes de la ligne d'armistice de 1949, mais non des lignes du 4 juin. Donc, on peut négocier le retour aux lignes du 4 juin sans être relié formellement à un tracé préalable. Mais Barak ne comprend pas la proposition syrienne. Et pour sortir de l'impasse, les deux parties acceptent que ce soit les Américains qui fixent le calendrier et l'ordre du jour des groupes de travail, ce qui permet pour l'instant d'éviter de savoir si on donne la priorité aux mesures de sécurité sur la question territoriale et inversement. Charer sort particulièrement optimiste de la réunion. Pour lui, il est clair qu'Israël a accepté le principe du retour en ligne du 4 juin et que l'on va aborder immédiatement la question de la démarcation de la frontière. C'est ce qu'il signifie aux ambassades arabes à Washington. Et Assad fait alors un geste supplémentaire en acceptant à la demande de Clinton l'envoi d'une mission de légistes américains, médecins légistes américains, chargé de retrouver les restes de soldats israéliens disparus dans la Bekaa en 1982. Ils se trouveraient dans un cimetière de Damas, mais l'information se révélera fausse. Mais en revanche, Barak se montre particulièrement anxieux. Il explique aux Américains que pour convaincre son opinion publique, il lui faudrait d'autres gestes arabes, comme la reprise des négociations avec le Liban, l'élévation du niveau des relations diplomatiques avec plusieurs pays arabes, une zone franche dans le Golan, ainsi qu'une forteresse économique et militaire à Israël pour compenser le retrait. Surtout, il ne veut toujours pas s'engager sur le tracé définitif de la frontière avec la Syrie et souhaite une rencontre préalable avec Assad. Ross lui répond que le président syrien ne s'engagera qu'une fois connus les détails complets de l'accord. La diplomatie américaine s'active envers les différents pays arabes pour obtenir l'élévation des relations diplomatiques avec Israël. Les réponses sont courtoises mais évasives. On attend les résultats des négociations pour s'engager. En revanche, les responsables syriens déclarent publiquement que le Liban et la Syrie feront la paix ensemble. En cette fin d'année 1999, l'administration Clinton est essentiellement préoccupée du soutien accordé à Barack face à son opinion publique, dont on connaît les aspirations par des sondages, c'est-à-dire la paix plus le Golan. Il est vrai que le Likoud tente d'arrêter le processus en proposant de fixer la majorité au futur référendum sur le Golan en fonction des inscrits et non des votants, ce qui impliquerait en moyenne de 60% de votants pour faire passer le référendum. L'argument avancé est qu'il faut neutraliser le vote des Arabes israéliens. De surcroît, la majorité gouvernementale israélienne se divise dangereusement sur les questions budgétaires, les laïcs voulant couper les crédits aux écoles religieuses du Chas, d'où un psychodrame entre les deux branches de la coalition. Finalement, on trouve des accommodements, mais la coalition est encore plus atteinte qu'auparavant. Dans la perspective américaine, on n'a pas à prendre en compte les susceptibilités des opinions publiques arabes, qui ne sont pas considérées comme des facteurs importants dans les équations politiques. Après tout, les régimes arabes ne sont pas des démocraties, et puisqu'ils ne sont pas des démocraties, on n'a pas besoin de tenir compte des opinions publiques. C'est ce que déclare en pratique le responsable de la presse au département d'État le 12 janvier 2000. We don't expect the Syrian government to submit any potential agreement to the people of Syria for a referendum in the same kind of way the Israeli government does so. Donc, ce point de vue. Et donc, les Américains ne voient en perpétuité que le soutien à Barack et s'étonnent toujours du peu d'enthousiasme des pays arabes à suivre cette voie. De toute façon, la diplomatie américaine a un défaut très grave, c'est qu'elle ne compte plus sur le rôle des arabisants, des arabistes du département d'État, puisque dans la langue politique américaine, arabiste est devenu un mot grossier qu'il ne faut pas utiliser. Et pour faire carrière, ceux qui connaissent l'arabe au département d'État ont pris l'habitude de se censurer et donc ne transmettent plus à l'échelon plus élevé des analyses qui iraient contre l'opinion du sommet. Les premiers à être inquiets de l'évolution des rapports israélo-syriens sont les Palestiniens. Les négociations sont gelées. Alors, on fait quelques gestes, une rencontre Arafat-Barak, etc., mais ça ne donne rien. Mais on va quand même faire le sommet de Shepherdstown. On a encore à peu près 10 minutes. La volonté de Barak d'éviter toute fuite a imposé le choix d'un lieu isolé à la négociation. Shepherdstown, à 120 km de Washington, en Virginie, ce qui permettra à Clinton de faire la navette régulièrement par hélicoptère entre la Maison-Blanche et le sommet. Les Syriens ne voulaient pas de Y, identifié aux Palestiniens, ni de Camp David, souvenir de Sadat. La négociation à huis clos commence le 3 janvier 2000. Immédiatement, la partie syrienne veut obtenir l'engagement de retour aux lignes du 4 juin, tandis que Barak joue sur sa faiblesse politique en Israël pour obtenir un soutien constant des Américains. On s'enferme dans un débat de procédure pour savoir dans quel ordre les groupes de travail seront constitués. Barak veut que la priorité soit donnée aux groupes consacrés à la paix et à la sécurité, avant ceux chargés de l'eau et des frontières. Charest veut la réunion simultanée des quatre groupes. Ross arrive finalement à un compromis. Les groupes tripartites israélo-syro-américains se réuniront les premiers, ensuite, et les autres groupes commenceront par des échanges indirects. On perd ainsi 2 jours en procédure. En même temps, pour apaiser les Syriens, on leur communique une copie d'une lettre de Clinton à Albright, réitérant l'engagement de Rabin d'accepter le retour en ligne du 4 juin. Bien évidemment, cette lettre a été écrite pour la circonstance et n'engage que les Américains et pas les Israéliens. Cela ne donne pas grand-chose. Les Syriens se tiennent sur leur position de départ et les Israéliens font de même, exigeant la reprise des négociations avec le Liban. Ce point annexe, puisque de toute façon les Libanais feront ce que les Syriens leur diront de faire, devient une condition capitale. C'est que des sondages d'opinion montrent que l'opinion publique israélienne n'acceptera le règlement avec la Syrie qu'à condition que le Liban y soit associé. Ross propose alors que les Américains rédigent un mémorandum récapitulant les positions des deux parties telles qu'elles ont été comprises. Sur cette base, Charest montre qu'il est prêt à des concessions. Les Israéliens auront la souveraineté sur le lac de Tibériade et les Syriens sur leur part de terre ferme à 10 mètres du lac, selon la frontière de 1923. Les Américains pourront gérer la station de préalerte sur le mont Hermon avec les Français. Cela ne suffit pas à Barak et continue d'exiger la reprise des négociations avec le Liban. Afin d'éviter une impasse, les Américains rédigent un projet, draft, de traité de paix entre Israël et la Syrie, qui est présenté par Clinton le 7 janvier 2000. Là, vous avez la photo des rencontres de Shepherd Down avec Barack, Albright, Clinton, Sandy Berger et Charest. Sur chaque point sont mises entre parenthèses les positions de divergence des parties et non les convergences. Il apparaît ainsi que les Syriens ont accepté le principe de la paix et que les Israéliens refusent toujours leur retour aux lignes du 4 juin. Après avoir étudié le document, la partie syrienne montre une certaine flexibilité en ce qui concerne les mesures de sécurité réciproque, le contrôle des ressources en eau. Les Israéliens ont besoin de garanties sur la qualité et la salinité de la ressource. Parce que quand on discute de l'eau au Moyen-Orient, on prend en compte à la fois le volume et le degré de salinité. Or, ce qui est très important pour le lac de Tibériade qui sert de réservoir pour tout le réseau d'alimentation en eau d'Israël, c'est l'arrivée des eaux du Liban, du Razbani et du Wazani, parce que l'eau qui vient des affluents venus du Liban est complètement dépourvue de sel et abaisse donc le niveau de sel du lac de Tibériade. Donc, dans la discussion, on mesure à la fois l'eau et la salinité. Donc, il y a un certain nombre d'ouvertures syriennes, mais pas d'ouvertures israéliennes. Les Américains s'inquiètent. Si ça continue de cette manière, Assad aura le sentiment qu'il a une nouvelle fois fait des concessions sans rien obtenir en retour. Dans ce cas, il se retirera de la négociation. De fait, lorsqu'on arrive à la frontière, les Israéliens s'en tiennent au contenu juridique d'une frontière internationale sans vouloir en définir le tracé. Ils s'en tiennent à leur interprétation de la résolution 242 qui autoriserait des annexions afin d'assurer la sécurité des nouvelles frontières. Mais la réponse syrienne, c'est que sans retour aux lignes du 4 juin, il n'y a pas de négociation et pas d'autres sujets à traiter. Barak veut se montrer un défenseur acharné des intérêts israéliens et donc ne pas se précipiter dans la négociation. Mais surtout, de peur des fuites, les négociateurs israéliens ne sont pas autorisés à entretenir des rapports off-record, en off, de façon informelle, si vous voulez, en français, avec les négociateurs israéliens. Seul Barak a la possibilité de modifier les positions et son équipe ignore même quelles sont ses intentions, d'où la paralysie de l'équipe israélienne. Clinton tente une ultime médiation. Au dîner final, Barack couvre de compliments la Syrie, son président et son ministre des Affaires étrangères, mais ce dernier répond qu'il avait été trahi. Après Blair House, il avait convaincu Assad que Barack était sérieux dans son intention de faire la paix. Or, il n'a pas répondu aux ouvertures syriennes. Il se demande s'il sera possible de continuer les négociations. Clinton exprime en privé à Barack son mécontentement. « Vous avez remporté cette session, mais encore une autre comme celle-là, ce sera un désastre complet pour vous comme pour moi. »« A wholesale disaster for you and for me. » L'Israélien répond que c'est un enjeu existentiel pour Israël. Il est amené à prendre plus de risques qu'Assad ou Clinton. Dans son fort intérieur, le président américain lui reproche d'avoir égaré la diplomatie américaine. S'il avait connu les intentions de Barack, on aurait travaillé à préparer les Syriens. Cela aurait été, selon la formule de James Baker, un autre kabuki diplomatique. En même temps, il reproche aux Syriens de vivre isolés du monde. Ils ne sont pas habitués à s'entendre dire non, d'où la vivacité de leur réaction. Le 11 janvier, les délégations se séparent, mais on annonce la reprise des discussions pour le 19 janvier. À son retour en Israël, Barack doit faire face à une manifestation de masse à Tel Aviv contre le retrait du Golan. Si les estimations entre les organisateurs et la police varient entre 150 000 et 500 000, il est incontestable que c'est un grand succès vu la taille de la population israélienne. Néanmoins, Clinton accepte de se porter garant d'un retour israélien aux lignes du 4 juin. Il a l'intention de le dire à Assad par téléphone après le retour de Charest à Damas. C'est indispensable pour la poursuite de la négociation. Mais en Israël, une fuite révèle le 13 janvier le contenu du projet américain, montrant au public l'importance des concessions syriennes et la fermeté de Barack en ce qui concerne le tracé de la frontière. Alors Barack fera ultérieurement porter la responsabilité de la fuite sur les négociateurs américains, tandis que les Américains diront que c'est Barack qui a organisé la fuite lui-même afin de montrer combien il était ferme dans la négociation. Le négociateur syrien se trouve ainsi critiqué dans son propre pays, du fait, en dépit des assurances de Clinton, les Syriens durcissent leur position. Il n'y aura de reprise des négociations israélo-libanaises qu'une fois la question de la démarcation de la frontière syrienne réglée. Leur seule ouverture est de demander une fois pour toutes quelles sont les positions israélienne. Signe inquiétant, la presse arabe annonce une vague d'arrestations en Syrie. Plus de 2000 personnes sont arrêtées en quelques jours. Dans les rues, les gens accusent Assad de vendre le territoire syrien pour assurer la succession en faveur de son fils Bachar. Donc, si vous voulez, là, il y a bien une réaction hostile de l'opinion publique en Syrie. Bon, évidemment, le régime répond comme il a toujours répondu, c'est-à-dire par la violence, mais en même temps, c'est aussi un signal pour Hafez al-Assad à un moment où la question de la succession est en train de se poser directement parce que la santé de Hafez al-Assad se détériore de jour en jour, c'est un dossier, la succession risque de devenir un dossier prioritaire par rapport à la paix avec Israël et il faut assurer la succession dans les meilleures conditions, donc ne pas paraître céder aux exigences israéliennes. Alors, va-t-il y avoir une paix israélo-syrienne ? Vous le saurez la semaine prochaine.